C'est la première fois que vous vous trouviez comme ça, parce que là, on est dans une situation très tendue, hein. C'est très très tendu dans cette pièce, il y a des gens dans notre dos qui écoutent, mais je ne les ai pas entendus depuis le début. Là, il y a toujours cette table qui, avec ce petit bouquet de fleurs artificielles là, qui sépare les victimes, les deux femmes victimes du bourreau, dans cette pièce, avec évidemment le portrait de Kagame, avec la Sainte Vierge, avec... Est-ce que c'est la première fois que vous vous trouvez face à face ?
C'est la première fois qu'on se parle.
Flora ?
Oui, moi aussi.
Et ça vous fait quoi ?
Je pense que ça ne me fait plus rien. Je pense que je suis déjà morte et que... Parce que même maintenant, si il me tuait, ce ne serait pas très difficile parce que je suis déjà morte. Ce n'est pas que, comme on le dit ici, qu'on est des rescapés, c'est juste que la mort n'a pas voulu de nous à ce moment-là, mais on n'est pas vraiment des rescapés.
Comment on dit l'expression ? Traduis-moi en Kinyarwanda, les morts dont la mort n'a pas voulu.
Maman n'a pas voulu de moi, on était avec les autres, mais ils sont morts. Et nous ne sommes pas morts.
Flora a survécu 30 jours cachée parmi les cadavres dans le charnier de Niarobouyé. Jacqueline, qui est assise à côté d'elle, de ce côté-là de la table, face à un homme dans un uniforme rose, celui des prisonniers, qui a été condamné. Cet homme a été condamné à 25 ans de prison pour acte génocidaire envers ses femmes. Ils sont face à face dans cette petite maison à Gitwe, dans le sud-est du Rwanda. Jacqueline, elle, a été capturée au cours de ces massacres et elle a servi d'esclave sexuelle pendant des mois. Elles sont deux des rescapées du massacre de Niarobouyé du 15 avril 1994. Ces rescapées qu'on appelle les morts, qui s'appellent les morts dont la mort n'a pas voulu, sont le plus souvent des gens très pauvres. Le plus souvent des femmes, et leur souffrance est d'autant plus insondable qu'aucune justice juste ne vient l'apaiser. On les retrouvera dans la série de reportages que nous vous présentons à partir du 30 mars, c'est-à-dire mardi prochain dans la Basse Ujiswe.
Bonjour Daniel Mermé. Je sais que vous êtes au Rwanda, qu'hier vous étiez à Niarobouyé, et peut-être que vous commencez à être fatigué de nos histoires de génocide et nos histoires de survivants. Mais moi, je voulais juste réagir par rapport à un article que je viens de lire dans Libé d'aujourd'hui, un article du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, qui s'intitule « Rwanda, les leçons du génocide ». Et j'ai eu du mal à lire cet article jusqu'au bout parce que je sanglotais de colère. Parce qu'il y a des euphémismes, voire des mensonges. Par exemple, Monsieur de Villepin, vous parlez de la tentative d'éradication d'un groupe humain en raison de ses origines ou de ses croyances. Mais de quelles origines s'agit-il ? Les Tutsis sont des Rwandais au même titre que les Hutus et non pas des étrangers, des Hamites venus d'Éthiopie, comme le disaient les idéologues du génocide, pour qui la meilleure façon de les renvoyer chez eux était de les couper et de les jeter dans le Nil pour qu'ils remontent jusqu'en Éthiopie. Quant aux croyances, vous savez aussi que les croyances, la langue, la culture est la même pour tous les Rwandais, ou tout comme Tutsis, qui ne sont d'ailleurs pas des vraies ethnies. Alors moi, je voulais savoir jusqu'à quand on allait continuer à nier l'évidence. Monsieur de Villepin, moi je suis une survivante. Et vous savez pourquoi je n'ai pas été tuée? Ben parce que quand les génocidaires sont venus pour me découper à la machette, j'ai réussi à leur faire croire que j'étais française. Et j'aurais dit que s'ils me tuaient, Monsieur Mitterrand et Monsieur Balladur seraient en colère et que peut-être ils cesseraient de les soutenir. Ben les tueurs l'ont cru et ils m'ont laissé en vie. Et je pense que ma toute petite histoire, elle est assez parlante sur la drôle d'amitié franco-rwandaise qu'il y avait à l'époque et sur laquelle on ne veut rien dire. Et vous savez pourquoi on a tellement de mal à dire la vérité en France? Parce qu'en 94, il y avait un gouvernement de cohabitation. La droite et la gauche ont des responsabilités qu'ils veulent taire et qu'ils veulent faire taire. Et pour une fois, ils se serrent les coudes pour maintenir le silence. Alors moi, je sais pas quoi faire avec ma colère, avec ma tristesse. Juste téléphoner à la base égyptienne en espérant que mon message passera.
L'implication de la France, la complicité de la France, il va en être largement en question dans les jours qui viennent, pas seulement dans la base où j'y suis, mais un peu partout. Des livres sortent, des articles sur ce sujet, et ce sera un élément passionnant de cette commémoration 10 ans après ce génocide au Rwanda où on essayait de faire tout passer sous silence. Il y a 10 ans et aujourd'hui, ben il semble que voilà, la mémoire ait fait son travail. On va suivre ça avec beaucoup de passion et d'intérêt. Aujourd'hui, suite Yves Cœur de Cible, le reportage de Claire Otter d'hier avec un seul homme qui pendant une heure a raconté sa vie. Celle d'un cadre supérieur, d'un grand directeur général qui aujourd'hui se retrouve proche du RMI et qui a raconté comment ça lui était arrivé, ses réflexions. On a rarement eu autant de messages sur le répondeur de la base où j'y suis. Donc cette émission va être à peu près entièrement consacrée à vos réactions diverses et variées sur ce sujet. Auparavant, quand même, d'autres messages sur le reportage sur le cochon. Ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais on adore ce qui n'a rien à voir.
Allô, Daniel Mermet, oui, bonjour. Je voulais simplement te, pour une fois, parce que je suis pas toujours d'accord avec tes émissions, et pour une fois que tu as parlé d'un travailleur manuel exceptionnel en ce qui concerne les tueurs de cochons, je voulais te remercier parce que ça fait, on voudrait revaloriser le travail manuel. Ça fait 40 ans qu'on nous méprise et je pense que tuer le cochon, j'ai connu ça moi quand j'étais en Sologne. J'ai appris le métier chez mon père en Sologne par des hivers en février-mars des années 50 avec des moins 15, moins 20. Ils ont tué le cochon dans les cours des fermes. Eh bien, je peux te dire que ça, c'est l'école de la vie quelque part parce que c'était un métier très difficile, très dur. C'est vrai que c'est pas très humain parce que moi, j'ai souffert quand je tuais les cochons. Tuer un animal, c'est pas toujours facile. Mais bon, depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Il faut tuer des animaux pour se nourrir. Et ben, c'est comme sur la Terre, les gros mangent les petits. Et j'ai trouvé ton émission très intéressante. Et ça m'a donné la chair de poule parce que ça m'a rappelé mon enfance. Et j'ai beaucoup souffert parce que les hivers étaient rudes. Et puis le métier était très rude. Mais je remercie tous les jours mes parents de m'avoir offert un des plus beaux métiers du monde, charcutier. Maintenant, je suis plutôt cuisinier, traiteur, parce que on est plutôt vers le light, vers la cuisine minceur et tout ça, donc le métier a évolué. Mais depuis la nuit des temps, tuer le cochon à la ferme, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Cabrol il y a 2-3 jours, il me disait qu'il avait été élevé dans la cour d'une ferme, et que ça lui avait beaucoup servi dans son métier, car l'anatomie du porc est la plus rapprochante de l'être humain, et quand on tuait le cochon, ils ouvraient le porc. Et en ce qui concerne le cœur, les poumons, les intestins, ça lui a beaucoup appris dans son métier de chirurgien par la suite, comme quoi, vous voyez, dans tout homme, il y a un cochon qui sommeille, et tant pis pour tous les coincés du bocal, si bien de l'avoir fait découvrir.
Bonjour Daniel, je suis Josette. Dimanche, avec les élections, si les Français réagissent pas, Daniel, là, il y a 2 siècles qu'il y a eu la révolution, et la France, elle se prépare à ça. Le gouvernement est en train de monter les Français contre les Français. La révolution, elle est pas loin. Au revoir, Daniel.
Un petit billet d'humeur, aujourd'hui j'ai entendu deux conneries. D'abord l'éruption jolitatoire de Francis Maire, marquée de mépris, de suffisance et d'imbécilité. La voilà la droite dévoilée. Après tout, tant mieux, hein, il n'a fait que les renforcer davantage.
Le Français est un être particulier, c'est pas quelqu'un de facile avec qui traiter. Il est constamment en train d'avoir peur, c'est-à-dire de ne pas avoir confiance, et de chercher dans un système de plus en plus frénétique à trouver la solution sans avoir compris que la solution, elle est en lui-même.
Et ensuite, ce qui me gêne un peu plus, c'est l'intervention de notre premier ministre.
On a un problème technique de vitesse. De vitesse. Et ce message de Francis Maire était commenté avant et après, non pas par un canard, mais par un auditeur. Vous imaginez ce que cet auditeur pouvait dire de ce message qui a consterné évidemment pas seulement les auditeurs de la Bassie J'y suis, mais ni même ceux de France Inter, mais la France tout entière. D'autres messages sur le répondeur de la Bassie J'y suis, 01 56 40 37 37.
Salut les porte-parole de l'Anti-France, salut tous les petits profs merdiques qui ont totalement laminé nos gamins, salut tous les pleurnicheurs qui s'imaginent que c'est pire ici qu'ailleurs, salut tous les candidats à l'islamisation, et puis si vous ne voulez pas vous faire islamiser, vous allez vous faire égorger, salut les petits connards autoflagellants.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe. C'est bien la première fois que j'appelle. En général, j'écoute assez passivement les réactions des uns et des autres. Mais il se trouve que là, je viens d'entendre l'intervention d'une femme qui parlait des chômeurs et de la France géniarde. Moi, je travaille avec les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire que mon boulot, c'est de les aider à retrouver le chemin de l'emploi. Et elle dit, du travail, il y en a, et il faut pas qu'ils se lèvent à midi et qu'ils arrêtent de gérer et qu'ils se bougent le cul. À cette dame, moi, je voudrais dire que sur au moins 200 chômeurs qu'on voit par an, s'il y en a un ou deux qui se lèvent à midi et qui jeûnent alors qu'il a vraiment pas envie de trouver du boulot, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que les autres, hein, ils se lèvent tous les matins, ils vont à la NPE, ils vont pointer. Des fois, ils sont maladroits dans leur recherche d'emploi, certes, mais ils se bougent. Hein. Et le manque de boulot, alors peut-être que cette dame, elle est à Paris, peut-être qu'il y a du boulot dans son coin, elle, dans sa petite niche de France d'en haut, mais il y en a certainement pas partout. Et des chômeurs qui cherchent du boulot, il y en a des centaines, et au bout d'un moment, ils sont hyper découragés parce que leur demande d'emploi, leur lettre de motivation spontanée, leur démarche spontanée, leur réponse aux annonces ne donnent pas de résultat. Voilà, madame, pour la France d'en bas, géniarde. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Yves, suite.
Flight number 2, arriving from New York.
Ouais, salut Daniel, salut tout le monde. Bah écoute, je t'écoute là en ce moment. Je suis chômeur, entendu. C'est vraiment du petit lait, quoi, c'est bien. Continuez. Ça peut pas durer comme ça, quoi. C'est pas possible, ils vont s'en prendre plein la gueule. Pas possible. Allez, continuez.
Alors encore une fois, Daniel Mermet, vous avez trouvé la perle pour continuer dans la caricature. Yves Cœur de Cible, rien que le titre. On était plutôt rassurés, contents, enfin on donne la parole à une autre catégorie sociale. Mais passez sous silence dans vos commentaires que ce sont les Anglais qui ont viré Yves. Certes, cette situation est sûrement difficile, hein, tout à fait dure. On veut bien compatir et on est loin de nier toutes les travers du système. Mais bon sang, avec un salaire de 160 000 euros par an, il a fallu que je prenne ma calculette pour savoir ce que ça donnait. C'est 10 fois ce qu'on gagne, nous, en travaillant de 7 heures du matin à aussi 22 heures le soir. Hein, avec ça, il a même pas été fichu, avec ses compétences et son expérience. Et pourquoi n'a-t-il pas trouvé un projet pour se lancer dans son bois? Il y en a plein qui le font. Il aurait créé son emploi et surtout, peut-être des emplois pour d'autres. Il y en a d'autres qui le font et qui le font accompagnés par d'autres entrepreneurs qui les aiment. Mais mon avis, ce qui manque à Yves, et j'ai rien contre lui parce que je compatis complètement, mais il lui manque vraiment le goût d'entreprendre. Allez, salut, et on en a un petit peu marre de la caricature perpétuelle. Ciao.
Bonjour Jérôme, voilà, je suis sur la route là, parce que je pars à 200 km de chez moi, parce que demain j'ai l'audience au tribunal de Prud'homme en conciliation d'un emploi dont je me suis fait virer quand même mal propre il y a maintenant 2 mois. Ce qui me vexe le plus, c'est que j'ai pas vu le coup venir. Et suite à l'émission d'aujourd'hui où j'entendais Yves, je flippe comme un malade. J'ai 41 ans, j'ai repris des études à 30 ans, j'ai passé un DUT de gestion logistique. Et je flippe de plus en plus. Je le fais pas trop voir chez moi parce que je vis avec une inquiète. Mais putain, que ça fait chier. Et puis là, tout à l'heure, après l'émission, il y a eu les infos et j'ai entendu Jean-Pierre Gaillard qui était tout guilleret parce que la bourse avait remonté. Tu dois vraiment pas écouter les mêmes émissions que moi sur France Inter, Jean-Pierre Gaillard. Ou peut-être que si, tiens, tout compte fait. Au revoir. Et petite félicitation au réalisateur de l'émission. Salut.
Salut Daniel, c'est Catherine. Vieux cadre de 54 ans. Toujours dynamique, car par chance recyclé. J'ai écouté Yves, la gorge nouée, en pensant à ma fille, la trentaine, qui malgré ses compétences ne trouve que des petits boulots, mal payés, frôlant parfois l'esclavagisme dans des boîtes dorées sur tranche. J'ai écouté Yves et j'en aurais pleuré de désespoir et de colère. Comment peut-on en arriver là dans un pays nanti où l'économie rime avec gâchis? Qui sont ces gens qui nous gouvernent? Pirp, des larmes au rire, grâce à cette pirouette musicale en cette fin d'émission. Modeste, peut-être, mais décidément, génial. Merci Daniel.
T'en fais pas, mon petit Jean. Tout n'est pas perdu.
Heureusement, il y a Marcel Lehon qui vient nous consoler. Vous avez entendu sa voix. Si on a le temps d'ici à 18h, on reviendra, on écoutera un nouveau tube de Marcel Lehon. Alors, voilà vos réactions suite à ce reportage d'hier et sur le récit que Yves, qu'on a appelé Cœur de Cible, a lui-même fait de son parcours, de sa descente. Il était, voilà, il gagnait 160 000 euros par an et maintenant il arrive quasiment au RMI. Il a raconté tout ça avec beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, beaucoup d'humour aussi, ce qui ne gâte rien, et vos réactions sont extrêmement vives. Mais ce qu'elles ont toutes en commun, ces réactions, c'est une inquiétude, c'est une trouille, c'est une insécurité. On pourrait appeler ça de l'insécurité sociale si le mot n'était pas déjà, l'expression n'était pas déjà à ce point galvaudée. Et c'est cette inquiétude qui se manifeste à tous les niveaux. Et surtout, évidemment, chez ces cadres, chez les gâtés du système, chez ceux, on a l'impression que tout le système est fait pour eux et qu'ils font ce système, eh ben on va voir que c'est pas tellement le cas à travers ces réactions. Alors évidemment, il y a le goût d'entreprendre, il y a l'entreprise, certains effectivement créent leur entreprise, mais est-ce vraiment la solution? Yves, Cœur de Cible, suite.
Le capuchon de Sferofi, les deux la vie à moitié prix en courbouillon, tous les poulets du HIV en transfusion, c'est des produits, on en avait ras le capi, tout est nickel et rien à voir, faut surtout pas couper le cordon ni la télé intraveineuse, des magogies, des gamogies, des plus véreuses, tout va si bien, serait trop con, faut surtout pas toucher à nos acquis, sceller nos patrimoines. On s'est battu, l'oubliez pas dans vos chansons. S'il y a de la soupe dans vos gamelles et de l'avoine, c'est que le bon Dieu l'a bien voulu, il est si bon.
Du sel dans les bananos, du beurre dans les haricots, de l'eau pour se laver la peau, du sang pour cracher ses bureaux, la voix pour gueuler plus haut, des fleurs pour t'aider bientôt, du ciel pour les animaux.
Y'en a qui naissent moins bon que les autres, mais c'est normal. On n'est pas tous apparus dans le même salon. Tous les lépreux, les petits nimbus et les couillons. Et les élus de la nation du capital. Faut circuler, y'a rien à voir, faites-nous confiance. On s'y connaît, on vous promet des vies heureuses. Démocratie, des crames aussi, des plus frileuses. C'est nous les rois du bataillon de la finance. Alors votez pour nos partis et sans surprise, vous y trouverez que du blanc bec et du pognon. J'y ai laissé mon pantalon et ma chemise. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous envoyer vos dons.
Du beurre dans les haricots, de l'eau pour se laver la peau, du sang pour cracher des mots, la voix pour jouer les pions, des fleurs pour
les castagnettes. Si les tranchées t'ont pas suffi, je connais une zone. Il semblerait que les séismes et les cyclones n'assouvissent pas nos fringales de marionnettes. C'est nous les rois de la conso et de l'outrance. On n'y peut rien, c'est le destin qui nous arrose. Vu que le dessin ressemblait à si peu de choses, des gobillons, cette pâtée qu'on recommence.
Alors là, c'était une candidature pour un simple poste de commercial dans une agence de location de voitures. Génial. Là, c'était...
Et ils vous ont refusé.
Ah oui, ils m'ont refusé. Votre profil ne correspondant pas en tout point. Là, c'est un centre de vacances où j'étais candidat au poste de responsable du département itinérance lointaine. Ah, c'est un peu tragique quand même. Là, c'était pour une boîte de literie. Il fallait vendre des matelas, ainsi de suite. Une fois vous êtes trop qualifié, une fois vous êtes trop sous-qualifié, une fois vous êtes trop âgé, une fois vous êtes trop pas assez jeune. Ça, c'est en plus ce que vous voyez en papier. Mais les principaux emplois maintenant, ce recrutement se faisant par Internet, j'ai quatre fois ça dans l'ordinateur. Socialement, c'est très dévalorisant de dire que vous êtes demandeur d'emploi. Et je ne suis pas certain que mes anciennes relations savent que je pointe dans une ANPE en ayant été à 160 000 euros de salaire et en ayant été directeur général. Ils me voient plus souvent au golf qu'à l'ANPE. J'ai un master de finance, j'ai un troisième cycle de gestion obtenu dans des universités importantes françaises. J'ai occupé des postes importants, j'ai été directeur général. J'ai dirigé jusqu'à 180 personnes en Allemagne et on est en train de m'aider, l'Agence nationale pour l'emploi est en train de m'aider à minorer mes compétences, réduire les activités exercées, changer des fonctions de directeur général en responsable pour essayer de trouver un simple poste, téléacteur.
Je suis Catherine et voilà, je viens d'écouter ton émission sur Yves Cœur de Cible. Eh ben, moi, je travaille à l'ANPE, en fait, depuis 4 ans. J'ai 33 ans. Et je suis très, très émue, là, parce qu'en fait, je suis en congé, et évidemment, j'écoute ton émission, et c'est tout à fait la réalité, quoi. Cet Yves, il a tout compris, et puis c'est très vrai ce qu'il raconte, quoi. C'est très vrai, il n'y a pas beaucoup de solutions. Je voulais te dire qu'on est quand même une poignée de conseillers à faire notre métier du mieux qu'on peut, à pas culpabiliser les gens, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Je voulais juste te dire que Yves, il a bien raison de parler des gens qui s'engraissent sur le dos de l'État. Je voulais te dire, hein, je veux pas balancer, mais pour une prestation comme le bilan de compétences là qu'il a fait deux ou trois fois, c'est quand même à peu près 4500 balles à chaque fois. Donc voilà, trois petits points. Chacun pourra trouver les conclusions qu'il veut. Je voulais te dire aussi que et vous dire que là en fait il y a un changement de statut de l'ANPE qui vient d'être adopté. Donc voilà, on va tout droit nous aussi dans un mur. On y va doucement, mais on y va tous, quoi. Et aussi vous dire que très bientôt, c'est dans les tuyaux, hein. Donc nous, on vient d'être informés que petit à petit, les ACEDIC ne recevront plus les gens. Donc les inscriptions, des informations sur votre dossier, bah, faudra le faire par Internet, faudra le faire par téléphone, et évidemment pour éviter les coûts. Et moi, j'ai une grande peur, c'est que des gens désespérés fassent des trucs pas très cool chez nous. C'est ce qui est arrivé lundi où un type nous a menacé de sortir un 9 mm et le directeur a dû demander une intervention des flics et donc on a vu débouler une quinzaine de flics pour arrêter ce mec-là. Voilà, j'ai un peu les boules de ce qui s'est passé, mais en même temps... Nous, on y est pour rien, quoi. Mais bon. Allez, courage à tous. À bientôt. Ciao.
Ouais, salut Daniel. Xavier, 34 ans, carrière sur scène. Je viens d'entendre l'émission à l'instant. Là, il y a même pas 18h. Je sais pas si on entend la pub en fond sonore France Inter. C'est vrai que je voulais réagir sur deux aspects. Le premier, c'est la petite dame qui pense qu'il y a une France assise et puis certains qui se bougent comme son mari. C'est d'ailleurs assez marrant. C'est son mari qui se bouge, pas elle, feignasse. Moi, ce que j'en pense, c'est que je suis cadre. Je suis dans les 5% les mieux payés quand on s'intéresse un peu à la sociologie aux statistiques sur les revenus. N'empêche que ça fait quoi? Je suis encore assez jeune, bien que sur les annonces, on cherche souvent du 30-35 ans. Je chie dans mon froc. Ça fait en gros 12 ans que je bosse, 12 ans que je chie dans mon froc. Pourtant, j'ai jamais connu un seul jour de chômage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je crois que votre témoin, là, Yves, qui à mon avis, lui, devrait vraiment faire de la politique pour le coup. Il a eu des succès, il s'exprime bien, il en a chié, et en plus parce qu'il a eu une conscience, donc tout ce qu'on demande en politique. Donc lui, il faut qu'il y aille, quoi. J'imagine dans un parti de gauche, bien sûr, mais s'il n'y a pas un parti de gouvernement qui lui fait une place sur des listes, que ce soit à des cantonales, à des régionales ou en député, français ou européen, j'en sais rien, c'est à désespérer, parce que si ça, c'est pas un élu qui serait audible pour le populo, c'est à désespérer, quoi. Moi, ce que j'en pense, c'est que avoir peur toujours comme ça, ça n'empêche pas, effectivement, je dis pas que c'est du quotidien, mais c'est quand même diffus. C'est chaque semaine, ouais. Chaque semaine, je crois que je me suis, dans les 3-4 premières années de ma vie, je me suis levé en ayant la chiasse. Et ça continue régulièrement. C'est peut-être pas toutes les semaines, parce que bon, après 6 ans en poste à droite, 3 ans en poste à gauche, en ayant changé à chaque fois, en étant relativement en position de force, n'empêche que, voilà, quoi. Des angoisses, il y en a. Moi, ma femme bosse, elle touche encore plus que moi. On est vraiment avec des salariés privilégiés en termes de revenus, participation, bénéfices, méga mutuelles, surcomplémentaires de retraite. N'empêche que, ouais, voilà, on fait des hamsters, on s'amuse de temps en temps à regarder toujours nos objectifs, à se dire, putain, c'est pas possible, ça va jouer à une affaire près pour qu'on soit dans les objectifs, toujours de plus en plus, évidemment, important. Et donc, on fait les hamsters, voilà. On fait les hamsters dans nos trous, on fait les cons, on tourne. Alors, ouais, ok, ça nous permet de nous payer la maison, d'avoir bientôt deux charmants gamins. On fait les hamsters et le monde est stupide. Tout ça pourquoi? Pour que quelques patrons puissent se payer quoi, 15 piscines, 18 limousines, mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Une fois que t'en as une, t'en es deux ou trois ou 18, rien à branler. Salut, à ciao.
La spirale est vraiment efficace et rapide. Plus de travail, plus d'emploi, donc plus d'argent, plus de loyer, et c'est fini. Et ça va très vite, donc... C'est pas avec le RMI ou de 400 euros ou la SS de 400 euros que vous payez une vie, c'est faux. Et encore une fois, c'est pas en mettant tout le monde dans le bâtiment et dans la restauration qu'on va résoudre les problèmes.
Bonjour, je m'appelle Xavier. Je viens d'entendre dans l'émission de Daniel Mermet, là, le grand directeur général, Bac plus 6, etc. Il est pas content. Il touche le chômage, mais quand on a tant de diplômes et de capacités qui créent son entreprise, on n'arrête pas de nous dire qu'en France, il faut créer des entreprises, qui créent des entreprises. Moi, j'ai créé mon entreprise, je suis plus vieux que lui et j'ai moins de diplômes que lui. Alors que tous ces grands diplômés qui commencent par donner l'exemple, au lieu de se plaindre sur les radios, qui crée son entreprise? Bonne chance.
Salut Daniel. Bon, encore une parfaite et géniale émission qui vient de passer cet après-midi. Et ça fait vraiment du bien d'entendre des gens qu'on peut difficilement accuser d'extrême-gauchisme, de parler de ces chômeurs qui ne sont finalement pas si fignants que ça, et de parler de ces décisions politiques qui paraissent aussi aberrantes les unes que les autres, alors que cette personne, considérée comme l'élite, eh bien on voit que finalement ça mène pas forcément au bonheur absolu d'avoir ces 160 000 euros annuellement, et que il suffit qu'on ait un petit peu de conscience pour se rendre compte que le monde dans lequel on vit il n'est pas parfaitement parfait. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup pour cette émission. Et ça fait du bien d'entendre des choses comme ça des fois. Et ça fait vraiment du bien, ouais, c'est sympa.
T'en fais pas, mon petit gars. Tu peux créer l'emploi.
Mon actionnaire anglo-saxon demandait toujours plus de résultats. Et si j'avais pu gagner plus d'argent avec personne, ça l'aurait ravi. C'est pas ma vision de l'entreprise. L'entreprise n'arrête pas de clamer en France et ailleurs qu'elle est citoyenne. Il faut qu'elle le montre. J'ignorais, pour être tout à fait sincère, que ce serait si dur de retrouver un emploi. Je suis pas sûr aujourd'hui, si j'avais su que c'était aussi difficile, que je serais parti comme ça. Mais j'en suis parti pour cette raison-là. Je comprends pas qu'on veuille toujours plus. On dise aux gens toujours plus pour nous, toujours un peu moins pour vous,
C'est l'essentiel de son histoire, l'histoire de Yves Cœur de Cible, c'est ça. Voilà. Il a pas pu, il a pas voulu, il a eu des états d'âme. Ouais, voilà, il a eu des états d'âme, il a pas marché dans le truc. Pourtant, il avait marché jusque là. Il était monté tout en haut de l'entreprise, tout en haut de l'élite actuelle, moderne, entrepreneuriale. Et voilà, il a pas, voilà. Et ça revient très souvent dans vos messages. Et en plus, il a une conscience, dit un auditeur. Il a un petit peu de conscience, dit un autre. C'est une prise de conscience, disent vos voix sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Ça laisse un petit peu perplexe sur tous ceux qui ne font pas ce que Yves a fait.
Bonjour, cher Daniel Mermet. Je suis patron, j'en ai marre d'être caricaturé dans vos émissions. On n'est pas tous des salauds, il y en a. Il y a des ouvriers qui sont des salauds également. Arrêtez cette caricature, c'est du pseudo-intellectualisme, votre affaire, il y en a marre. Est-ce que l'UNEDIC va pouvoir répondre à l'émission d'aujourd'hui? Vous caricaturez en disant que c'est le gouvernement, ou en faisant parler vos interlocuteurs en disant que c'est le gouvernement. L'UNEDIC, cultivez-vous un petit peu, vous verrez, c'est une association, enfin une association, c'est une organisation qui est gérée de concert par les syndicats et le patronat. La nouvelle convention, elle a été signée par un syndicat qui représente des travailleurs et par le patronat. Alors il y a les plus extrémistes comme la CGT qui n'ont pas voulu signer, c'est leur droit. Mais arrêtez de dire que c'est le gouvernement qui a signé ce truc-là. On file à l'UNEDIC des sommes d'argent tous les mois, les entreprises et les salariés payent tous les mois des sommes énormes à l'UNEDIC et on leur demande de le gérer. Ils le gèrent au mieux. Après, quand on peut plus payer, on peut plus payer et ça devient des problèmes de solidarité nationale. Qui là dépend du gouvernement, mais en ce qui concerne les allocations d'UNEDIC qui sont versées ou qui ne sont plus versées avec les chômeurs, on peut considérer que c'est pas assez versé, que les fins de droit c'est trop tôt, peut-être, en tout cas il n'y a plus de fric, quoi. Et après c'est un problème de solidarité, et là simplement ça dépend du gouvernement et de votre vote. Mais avant, arrêtez de caricaturer, vous êtes trop excessif pour que ça soit vraiment crédible et supportable. À bientôt, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Je réagis à l'émission de Yves Cœur de Cible, qui dit que effectivement il n'y a plus qu'à descendre dans la rue pour se faire entendre. Mais moi, je suis descendue dans la rue, ça fait plusieurs années que je descends dans la rue, je suis intermittente, et on ne se fait pas entendre non plus. Donc j'ai pas. Moi, je pense que quand les allocations me seront coupées, parce que j'ai plus de travail, parce qu'on délocalise, fait des films partout, on n'en fait plus beaucoup en France, ou alors on sous des conditions aussi qui sont de pire en pire, et ben quand j'aurai plus d'argent, ben j'irai me servir dans les grands magasins. Voilà, puis j'encourage tout le monde à le faire, à s'organiser, et puis à prendre des caddies et aller faire des courses gratos. Voilà. J'en ai marre.
Oui, bonjour. Je voulais simplement dire bravo pour la très très bonne émission d'aujourd'hui, jeudi, sur le chômage et surtout pour les 5 dernières minutes sur la division par la fragilisation d'absolument tout le monde, parce que c'est bien le problème, c'est fragiliser absolument tout le monde, déstabiliser tout le monde pour éviter la résistance. Mais on va résister. Au revoir et encore bravo.
Voilà où on en arrive en France. Des réductions de CV. C'est monstrueux. Moi, j'ai pas connu parce que j'ai refusé. Tant pis pour la misère. Les gens bien sont aujourd'hui regardés comme trop bien, gênants. Le message Raffarin a si bien atteint la France d'en bas qu'il rebondit sur le bas de la France d'en haut. Bientôt, il ne restera que la France d'au-dessus de tout, le pied sur celle d'en dessous de tout. Et personne ne bouge, ne crie, la majorité reste silencieuse, elle a encore trop à perdre et pas encore assez de conscience.
Merci pour vos messages. Très précis, hein. Vous avez été très précis. C'est quelque chose qui a vraiment, c'est la cible, le cœur de cible. On a, c'est un petit sobriquet, hein. Il s'appelle pas comme ça, évidemment, Yves Cœur de Cible. Mais en tous les cas, ça a tapé pile, son témoignage, a tapé pile dans quelque chose de je ne sais pas si on pourrait dire le mal français, c'est un mal beaucoup plus large que ça. Cette fragilisation, cette déstabilisation qui fait qu'un homme enlève effectivement, ce que dit cette auditrice, réduit son CV, enlève ses diplômes, enlève son expérience, enlève son savoir, s'enlève en somme.
Aujourd'hui, jeudi 25 mars,
Le témoignage d'Yves m'a particulièrement intéressé et saisi par la véracité de son analyse et ses propos et des propos tenus. Merci pour cette excellente émission dont je souhaiterais recevoir la cassette. Comment dois-je procéder pour cela ? François, cadre commercial rebelle et résistant.
Mon fils est en troisième année de Sciences Po et je l'encourage, au regard de ce contexte économique et de cette classe politique, une fois ses diplômes, à partir à l'étranger. C'est, à mon sens, un pays figé pour les jeunes. Et en termes d'ambition professionnelle, de projet de vie, il ne me semble plus que la France soit porteuse. Donc on dit à notre fils, prends tes diplômes et barre-toi. Va-t'en.
Salut Daniel, je viens d'écouter ce reportage sur Yves. Je voulais aussi apporter mon témoignage en disant que aujourd'hui, il n'y a pas que des vieux cons, il y a aussi des jeunes blancs-becs qui ont des difficultés à trouver du boulot, même en sortant d'une grande école. Et j'espère que le reportage de Yves suscitera non pas la peur, mais nous fera sortir de notre indolence. Voilà, merci pour ton émission, à bientôt. Benjamin de la Creuse.
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Florence, en Ardèche, dans les Cévennes. Merci pour vos émissions en général, et en particulier pour celle d'aujourd'hui, jeudi 24 mars. J'ai été très touchée par le témoignage de Yves Cœur de Cible. Je trouve qu'il fallait un sacré courage pour parler de son expérience, d'autant plus qu'il l'a fait avec beaucoup de pudeur. Cela dit, je souhaiterais, si c'est possible, que vous repassiez la toute fin de l'émission, sa conclusion en quelque sorte, parce que je crois que ça peut être susceptible de donner beaucoup d'espoir aux gens qui sont dans la même situation que Yves, et puis aussi que vous redonniez les coordonnées et du bouquin de Michael Moreau et de toutes les associations dont vous avez parlé. En tout cas, merci encore pour vos émissions, bon courage et à bientôt.
La spirale est vraiment efficace et rapide. Plus de travail, plus d'emploi, donc plus d'argent, plus de loyer. C'est pas avec le RMI ou de 400 euros ou la SS de 400 euros que vous payez une vie. C'est faux. Et on invente de nouveaux outils de retour à l'emploi, des CEI, des CES, des CEA, enfin, c'est vraiment des machins qu'on donne des emplois, qu'on les appelle des emplois. On voit pour la première fois France Télécom qui a réduit ses effectifs de 26 000 personnes l'année dernière. C'est monstrueux. Aujourd'hui, c'est un gouvernement qui, pressé par un patronat, veut fragiliser les gens. C'est plus facile de régner sur des gens fragiles que régner sur des gens solides. Et quand vous avez peur de perdre le peu que vous avez, eh ben, vous descendez pas dans la rue, vous allez travailler. On s'écarte effectivement de ces préoccupations qui étaient au lendemain de la guerre, de réunir un peuple derrière des valeurs communes. Aujourd'hui, on divise ce peuple. Et je ne connais pas, à part une très faible portion de profil métier, de catégories qui se sentent protégées par leurs diplômes et par leurs expériences. Ils sont architectes, c'est pareil, ils ont peur. La plupart d'entre eux ont eu un long cursus universitaire. Il a déjà fallu passer par des concours. Un concours, ça veut dire je suis meilleur que l'autre, puisqu'on prend pas tout le monde. Et malgré ça, il n'y a aucun moment où ils peuvent se dire j'ai planté, je vais un peu récolter. Ce que chacun de nous peut faire, c'est se réunir avec l'autre pour peser sur le politique. Peser, c'est voter. Ça ne peut être qu'une décision politique. Quel que soit le grand dossier, qu'il soit de la sécurité, de la maladie, de l'emploi, ce gouvernement souhaite une économie ultra-libérale, individualiste, de manière durable. Il y a un véritable danger. Il faut que les gens l'expriment.
Pauvre de nous, peuple si faible, mais où est donc passée la plèbe? N'y a-t-il plus que des bourgeois et qui désirent tout ce qu'ils voient? Il y en a plein qui achètent un moulon de six caves, des obligations et des actions à Paris-Bas. Un lingot de cachet tout au fond de la cave, des Napoléons et puis encore je ne sais quoi. On rêve tous de cabriolet, de Mercedes et de posséder une belle et grande villa, pleine de champagne et de superbes gonzesses, habillées par Chanel, Dior et puis Chantal Thomas, pleine de seins, pleine de fesses et qui ressemble à Pamela. On voudrait tous être Bill Gates et Bill Clinton et Monica.
Quand vient le samedi, à tous les coups, c'est la grand-messe. De la consommation au supermarché de son choix. On fait des achats, mais quand on arrive à la caisse, malheureusement, on fait souvent des chèques en bois. Les riches sans vergogne augmentent leur richesse. Toi, pauvre couillon, tu ne t'en aperçois pas. Les politiciens sont à l'aise pour magouiller à tour de bras. Et c'est toujours le plus balèze qui du faible brise les doigts.
Hey, Faitila!
Voilà les Massilia. Alors on va finir cette émission avec un... autour d'un livre qui s'appelle Le gouvernement des riches, qui vient juste de sortir aux éditions de la Découverte. Je vous en ai parlé hier. C'est un livre d'un tout jeune journaliste, 23 ans, qui s'appelle Michael Moreau, et qu'on a reçu tout à l'heure, enfin ce matin, avec Claire Otter. Mais alors, on va pas vous passer l'interview, on va pas vous passer l'entretien avec Michael Moreau. On va vous passer le off. Hein, ouais, voilà, pour une fois c'est off, c'est-à-dire ce qu'on n'aurait pas dû vous faire entendre, hein, l'autre partie quand on arrive dans le studio et qu'on papote, c'est off. Ouais, donc le problème c'est qu'il y a beaucoup de réactions à l'émission d'hier. Et qu'il faut qu'on fasse pas trop long.
Voilà, c'est ça.
Mais t'es vachement jeune, t'as pas...
J'ai 23 ans.
Ah, d'accord, c'est la nouvelle.
Mais je suis entré à France 100 bizarrement à 19 ans, en fait. Et je n'ai travaillé que sur les sujets, que sur le social, ce qui m'intéressait, en fait, énormément.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
J'avais les mêmes interlocuteurs aussi que pour mes papiers de François et pour ce bouquin. Donc, qui a été aussi plus facile. Et ce qui m'intéressait, voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai appris des choses.
Ils vont continuer de te recevoir après ça? Ouais. Ouais. Donc ça veut dire quoi, qu'ils s'en foutent de ton truc?
Non, parce que j'ai eu quand même des coups de fil, mais...
Ouais, oui.
Mais bon, non, j'ai pas...
Ça les atteint pas plus que ça?
Le MEDEF un petit peu, en fait, et Bercy visiblement un petit peu, puisqu'ils m'ont appelé pour ça quand même. Notamment tout le côté fiscal, et puis c'est vrai que je cite à un moment le conseiller en com de Francis Maire, qui a été pendant 14 ans le chef du service de presse du CNPF, en fait. Et c'est dans un service aussi, on s'échange les hommes, comment les... Au MEDEF et au gouvernement, il y a beaucoup d'hommes qui ont été échangés comme ça depuis l'alternance, en fait. Et notamment pas mal de personne de Bercy était avant au MEDEF et des gens du MEDEF aujourd'hui étaient parfois avant à Bercy.
Bah oui, mais c'est ça, gouverner la France. Hein. Gouverner la France, c'est quand même une réussite, il faut saluer les réussites. Il n'y en a pas tant que ça en France. Où t'as un gouvernement qui quand même arrive à imposer une succession de mesures antisociales, les unes derrière les autres.
En présentant par exemple
comme
l'ISF comme une mesure pour l'emploi, pour les chômeurs.
Ouais. L'impôt sur la fortune.
Ce qui permettrait de favoriser l'emploi, puisqu'il y aurait moins d'entreprises qui délocaliseraient à l'étranger.
Ouais, c'est-à-dire, on leur dit la guerre, c'est la paix, quoi. C'est 1984. Ouais. Mais sans rencontrer d'obstacles.
Ouais.
Sans rencontrer l'obstacle. La rue, c'est pas un obstacle.
Ouais. Les
syndicats sont d'accord. La CGT n'est pas pas trop mauvais cheval. Il y a une
Sur les retraites, ça c'est plutôt
assez sympa avec CGT, avec Fillon, ça va quoi. Ils sont pas trop, ça va.
Bah, Thibault et Fillon s'entendent plutôt bien.
Voilà. Donc c'est quand même une réussite. Il n'y a pas que des échecs en France. Voilà. Alors après, la réussite, c'est les pressions, c'est les groupes de pression. Comment ça s'articule? Le MEDEF qui est une réussite aussi, qui est une réussite. Pour les riches, parce qu'il n'y a pas que des pauvres en France, Claire.
Ouais.
Il y a aussi des riches. Et c'est une réussite. Les riches réussissent bien en France. Voilà.
Et puis, dans le domaine de l'emploi qui nous intéresse là tout particulièrement.
Il n'y a pas que l'emploi. Il y a les 35 heures, la lutte contre les 35 heures. Il y a la lutte contre l'ISF.
Les 35 heures qui encourageraient l'alcoolisme. C'est ça, selon la formule de.
Si tu restes à la maison.
De Nicolas Bavrez.
Ouais.
Hein, c'est vrai.
Ouais. Tu bois et tu cognes ta femme.
Oui, voilà.
Les 40 heures, tu ne bois pas. Mais en dessous de 40 heures, paf. 39 heures, tu commences déjà un petit peu à boire. Un peu tapé, des gifles. Mais à 35 heures, tu cognes franchement ta femme, quoi.
Mais il faut rappeler au fond qui d'où vient Raffarin, parce qu'on a tendance à l'oublier, hein, qu'il était directeur.
Ça explique aussi, oui, de Jacques Vabre.
Directeur commercial de Jacques Vabre, directeur du marketing.
Ouais, hein, enfin en même temps ce que tu dis et ce qu'on savait, mais que tu redis, c'est
ce qui explique aussi tout le tour de passe-passe sémantique et politique sur comment on présente des mesures pour les plus aisés ou plus et qui en réalité.
Il faudrait faire un truc, un vrai glossaire comme ça, des entourloupes langagières comme ça.
Hein, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure.
On aurait fait un petit glossaire.
Absolument. Non, mais il y aurait un livre à faire, tu sais, à la Bouvard et Pécuchet, si tu reprends toutes ces petites phrases.
Dites, ne dites pas, quoi.
Ouais.
Sur le mode dites, ne dites pas.
Et alors, Michael m'a indiqué ceux qui étaient les plus gaffeurs, ceux vers qui il faut aller. Comme Guillaume Sarkozy. Guillaume Sarkozy est un excellent client. Hein.
Mais sauf que maintenant, il fait beaucoup plus de gaffe et il s'est fait tellement engueuler par sa direction de la communication. Il avait encouragé les entreprises à délocaliser.
Oui, très ouvertement. Ouais.
La refondation sociale, par exemple. C'est des expressions.
Au départ, même, ça devait être la nouvelle constitution sociale de la France, en fait. Il voulait le baptiser comme ça, tellement une connotation politique, ça montrait tellement clairement qu'il voulait tout remettre à plat, tout ce qui régissait les rapports sociaux depuis l'après-guerre, que finalement ils ont opté pour le terme refondation sociale, qui reste très fort. Et au départ, donc même je suis parti vraiment d'un bouquin au départ sur le lobbying du MEDEF, et donc ça s'est après élargi. Au départ, je voulais l'appeler donc comment le MEDEF veut tchatchériser la France.
Mais là, on est passé de la refondation sociale.
C'est impressionnant. Tous les think tanks
qui ont été créés après l'alternance.
L'entreprise privée, l'institut des entreprises, l'entreprise institut Montaigne qui est pris à.
Il y en a une qui est très drôle entre guillemets, c'est Croissance Plus, qui est une association qui fédère 150 je crois entreprises vraiment et qui ont envoyé au ministère, qu'on fait du lobbying, un document qui s'appelle Croissance Plus d'emploi, et avec des mesures qui sont d'un caricatural. Par exemple, aujourd'hui une entreprise doit faire un plan social à partir de 10 licenciements économiques. Donc le MEDEF demande à faire passer ce chiffre de 10 à 20. Et eux réclament non seulement de faire passer ce chiffre à 10 à 20, mais 20, ça serait le minimum. En réalité, ils veulent que ça soit 10% du total des effectifs. Par exemple, on pourrait licencier jusqu'à 500 personnes dans une entreprise de 5000 salariés sans plan social.
Oui, mais ce sont des idées qui finissent par faire leur chemin. Il y a aussi, tu sais, toute l'implantation des entreprises à l'école, la façon dont on fait rentrer l'entreprise dans l'école.
Voilà. Le MEDEF veut faire du lobbying sur
le côté pédagogique. La pédagogie, la communication, la pédagogie, faire comprendre le message. Voilà. Il faut commencer tôt.
Et le MEDEF a missionné Pébro pour faire du lobbying auprès du gouvernement sur la réforme de l'école, pour s'impliquer sur la réforme de l'école.
Ouais.
J'ai entendu Raffarin ce matin qui disait que, selon lui, le message du premier tour, c'était sur RTL, c'était que les Français voulaient que les réformes aillent encore plus vite.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas assez de réformes, pas assez de pédagogie. Ils veulent plus de pédagogie, parce qu'ils n'ont pas bien compris.
Il faut accélérer les réformes maintenant.
Mais c'est ça. Là, c'est un peu au milieu, quoi. C'est le chantier.
Il y a quand même des hommes de l'UMP, comme Jacques Barrot, par exemple, qui disent qu'il faudrait peut-être élaguer les réformes, entre guillemets, et plus se recentrer sur l'assurance maladie. Et sur l'emploi, mais c'est pas ce que veut visiblement Raffarin et Fillon. Si Fillon dit faut continuer, même peut-être aller encore plus vite, prendre plusieurs dossiers en même temps, alors que jusqu'ici on les prenait un par un, les retraites, après l'emploi, après.
Ok, on tourne.
Après une semaine de travail, je suis un jeune comme toi, je pense aller danser le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. J'ai mon look et toi ton look, chacun le sien. Du reggae au new wave, il y en a pour tous les goûts. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Des nouveautés comme cette chanson magique. On en prend plein la vue avec ces jeux de musique, de lumière. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Un slow ou deux avec une partenaire, ça ne fait pas de mal. On se dépense toute la nuit dans la boîte de nuit. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Tous les samedis soirs, c'est les boîtes de nuit. Un coup à gauche, un coup à droite. Après tout ça, on n'a plein les oreilles, et c'est terminé. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit.
C'est bien, hein? Ah, c'est Marcel, ça c'est pour finir la semaine, pour vendredi. C'est une chanson de Marcel. Merci à tous, merci à, d'abord à vous tous, auditeurs du répondeur de la base où je suis. Merci aussi à Yves, merci à Yves Cœur de Cible, merci à Michael Moreau, son bouquin, Le gouvernement des riches, un bouquin formidable aux éditions de la Découverte, des associations de chômeurs. J'ai donné les coordonnées hier, j'en redonne deux aujourd'hui. MNCP, 01 40 03 90 66 et CGT Chômeur. 01 48 18 84 45. Reportage Claire Otter, technique aujourd'hui à la Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Assistant Coyen Guyenne, assistante Anne de Giaferi, le numéro du répondeur de la base Wi-Fi, vous le connaissez par cœur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et je vous signale la publication d'un bouquin, mais absolument merveilleux, extraordinaire, superbe, d'Elias Sambar. Qui s'appelle Palestiniens. Les Palestiniens, c'est un beau bouquin de photos absolument sublime aux éditions Azan. Je vous ai dit que c'était Antoine Chao qui avait réalisé cette émission modeste et géniale. Et ben alors, c'est parfait.